Cube Radio.
Cube Radio. Cube
Radio. Pour un regard inédit sur la démocratie et la politique. Un éclairage innovant qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Patrick Desrives.
Alors, Jean-François Gosselin, qui est conseiller pour Québec 21, parti d'opposition à la ville de Québec, provoque un tollé en disant que, de nature, les femmes sont peut-être moins attirées par la politique. Est-ce que ça veut dire que M. Gosselin a lui-même de la difficulté à attirer des femmes dans sa formation politique? On en discute avec Nick Payne, analyste politique, collaborateur ici. Salut, Nick.
Salut Patrick. En fait, tu poses une bonne question. C'est bien possible qu'il ait de la difficulté. En effet, j'en sais rien, mais tu vois, dès que M. Gosselin, donc c'est le chef de Québec 21, si je ne m'abuse,
ouais,
a prononcé ces mots à la radio de Québec, tout de suite, les certaines membres de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec se sont insurgés pour qualifier son propos d'inacceptable, d'inexcusable. Il y en a une qui a expliqué que c'était digne d'un homme du milieu des années 60. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là, en 1965, là, mais enfin, tu vois un peu, on aurait peut-être pu dire les années 50 ou les années 70, j'en sais rien. Mais donc, bref, évidemment, on n'a pas manqué de chemises et de blouses à déchirer sur cette déclaration. Par contre, là, il y a quand même un problème. C'est que, d'abord, présumons, c'est pas très gentil pour lui, que M. Gosselin n'avait pas à portée de main dans son vocabulaire un mot plus juste que de nature. Il aurait pu dire d'emblée ou encore aujourd'hui parfois, ou trouver une formule un peu plus habile. Là, de nature, évidemment, on va presque jouer dans les gènes et ce n'est pas acceptable comme propos devant le dogme, un certain dogme féministe qui veut que les femmes et les hommes soient exactement pareils au fond, mais que ce soit la culture qui les change dans leur vie. Mais donc, il reste une chose, c'est que quiconque a fait un peu de politique, même je pense que ça t'est arrivé, toi aussi Patrick, à un certain point, je ne connais pas l'ensemble de ton passage.
Écoute, j'ai été conseiller politique pendant 4 mois et demi, puis après ça, je suis allé voir ailleurs si j'y étais.
Bon, c'est ça donne pas nécessairement la perspective sur ce que je vais te dire, ça, mais quand tu es un peu plus près de l'organisation puis de la poutine quotidienne, là, la machine politique, tout le monde, mais alors là, tout le monde, ça se dit beaucoup, et moi je l'ai appris en politique, parce qu'on n'entend pas ça nulle part ailleurs, que c'est plus difficile d'attirer les femmes.
Ouais.
Pour toutes sortes de raisons. Il faut vraiment aller les chercher chez elles, dans leur salon, les convaincre, les rassurer, leur ouvrir la porte, parfois même dérouler le tapis rouge ou, comment dire, proposer des choses qu'on ne proposerait peut-être pas nécessairement à n'importe quel candidat pour essayer de... Tu comprends? Amener un
incitatif,
là.
Nick,
alors là, oui.
Regarde, là, c'est tout ce que tu dis, c'est vrai. Puis c'est un boys club, puis c'est des horaires de fou. Fait qu'en plus, c'est des femmes qui ont des jeunes enfants, puis on sait que c'est des femmes qui ont souvent plus la charge que les hommes. C'est comme ça, là. Ça change, mais ça change pas vite. Mais là, toutes les partis politiques sur la scène provinciale présentement, là, ils s'en vont non seulement vers la parité, mais possiblement vers plus de 50% de candidates. Parce que, tu sais, on s'entend quand même, oui, t'as quand même 4 300 000 femmes au Québec. Fait que, tu sais, je peux comprendre que c'est plus dur. Moi, je sais pas ce que je vois là-dedans, là. Québec 21, c'est un parti qui est à peu près sur le même spectre politique que le Parti conservateur du Québec. Là, c'est un parti de droite, populiste, alimenté par les radios, en tout cas, nourri d'une certaine façon par les radios de Québec. Puis c'est drôle. Le Parti conservateur du Québec a aussi de la misère à recruter des femmes, gardons ça.
Ah oui, ben oui, non, mais alors oui, sans doute, c'est peut-être encore plus difficile. Oui, mais d'ailleurs, ça s'explique, hein. Dans toutes les études d'opinion, on voit que les femmes sont un peu plus portées vers la gauche, pour résumer ça grossièrement, là, c'est pas toujours exact, là, ce que je dis sur toutes les questions, mais souvent, le domaine de la... Comment dire, de l'empathie ou de l'ouverture est davantage fréquentée par les femmes par des faibles marges. Là, c'est pas des grosses différences, mais tout de même. Alors, peut-être qu'il y a ça, oui, mais moi, je persiste. Je pense que le pauvre M. Gosselin a dit des choses qu'on devrait être capable de dire. Peut-être, au contraire, que ça nous permettrait de mieux chercher et trouver des solutions à ce problème-là. Je n'en sais rien. Mais tu vois, tu as évoqué le Boys Club. D'autres parlent du plafond de verre. C'est même parfois, je trouve, une excuse facile pour que à laquelle se réfèrent certaines femmes en politique pour expliquer leur échec. Je pense à je suis critique ici, mais je pense à Pauline Marois, oui, qui a par ailleurs réalisé plein de grandes choses, mais elle a aussi dit que une partie de ses insuccès était due au fait qu'elle était une femme. Parfois, je trouve ça un peu court et j'aimerais qu'on aille plus loin. Peut-être qu'effectivement, la politique est historiquement pratiquée par les hommes et que les modèles sont masculins et que la machine est mieux adaptée à l'homme, pour le dire plus largement. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il y a un club de gars, comprends-tu, qui veulent pas voir les femmes là. Hein? Ouais. C'est peut-être un peu plus complexe que ça. Alors, ces réactions-là, moi, viscérales, un peu binaires, je trouve que ça nous permet pas de réfléchir correctement à cette question-là.
Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Là. C'est sûr que si on veut juste se mettre à crier sans écouter, c'est une chose. Moi, je t'avoue, là, tu sais, j'ai un peu moins de sympathie pour les partis qui ont pas, mettons, disons, une grosse réflexion. Ceci dit, pour ce que tu dis par rapport à Mme Marois, moi, je suis assez d'accord avec toi aussi parce que, disons que, malgré son parcours politique absolument impressionnant, je t'avoue que j'ai jamais été dans les grands admirateurs de Madame Marois. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup plus de points en commun qu'on aurait voulu le voir avec Monsieur Charest, par exemple. C'est-à-dire, c'est des politiciens, politiciens de carrière, là, très bons pour durer. Mais après ça, pour le contenu, là, disons, il y avait besoin d'être soutenu un petit peu. Puis il voulait beaucoup être là. Alors, quand Madame Marois dit que, c'est par exemple, à Blum, le fait de ses insuccès pour être une femme, moi, j'ai jamais considéré différemment aucun politicien, aucune politicienne, mais c'est juste que, t'sais, j'attends encore les 10-12 pages de Mme Marois sur un truc de politique publique pour expliquer là, ce qu'elle pense vraiment ou sa vision du Québec. Là. Disons que souvent elle est en campagne puis elle n'avait pas trop l'air à savoir ce qu'elle voulait. Puis même comme première ministre, ça n'avait pas toujours l'air à être très, très clair. Fait que ça, c'est là-dessus là, elle n'a qu'elle-même à blâmer. En tout cas, fin de l'éditorial. On arrive...
Tu vas plus loin que moi dans ta critique, mais c'est bien parfait. Ça me fait plaisir de t'avoir entendu.
Ouais, il fallait que ça sorte depuis un bout de temps. Écoute, le directeur général, on sait ce qui, directeur général des élections, on sait présentement, là, c'est une nouveauté au Québec, la campagne des élections à date fixe, parce que même si la loi a été votée depuis un bout de temps, ben, la première fois, elle n'a pas été respectée. Fait que donc, c'est comme la deuxième fois.
Par Mme Marois, faut-il le dire?
Par Mme Marois, d'ailleurs, c'est ça. Ah. Une autre chose aussi. Comment briser la confiance envers l'électorat, mais on va, tu sais, ne tirons pas sur une ambulance, comme on dit. Là, ça fait en sorte que il y a beaucoup de publicité qui a eu lieu par les partis politiques, dont évidemment celui qui est au pouvoir, qui est en excellente santé financière, mais aussi par des mouvements qui ne sont pas des partis politiques, par exemple des centrales syndicales, la FTQ, pour ne pas le nommer, qui a commencé à s'activer. Et là, comme on n'est pas en campagne, ça compte pas. Fait que le directeur général des élections du Québec, lui, commence à se poser des questions.
Oui, il est tanné de ça un peu, là. Alors, évidemment, il dit que c'est le fait qu'il n'y a aucune règle qui s'applique en période préélectorale. Maintenant, qu'est-ce que c'est la période préélectorale? Je ne sais pas trop, un mois, six mois, un an, trois ans, il faudra voir. Mais il dit que c'est bien dommage parce que là, les partis plus fortunés, évidemment, peuvent dépenser allègrement. Bonjour la CAQ, évidemment, on pense à toutes ces publicités qu'on voit et qu'on entend partout depuis déjà un bon moment, hein? Les espèces de publicités de témoignages, là, où on voit Christian Dubé encenser François Legault. Il y a eu ces publicités avec cette madame, là, qui était une admiratrice de M. Legault, d'ailleurs, dont la fille avait critiqué la CAQ.
Donc, ouais, avec un slogan politique formidable. Personne n'aurait mieux fait. C'est fantastique.
Oui, c'est ça, c'est bien, hein. Ça aurait pu être, ça pourrait pas être pire ou quelque chose comme ça.
C'est inspirant.
Mais oui, c'est ça, c'est très inspirant. Mais à ce sujet-là, j'avais vu à Saint-Jean-sur-Richelieu, au municipal, le slogan, c'était « Rien à cacher ». Quand même très, très, comment dire, motivant pour l'avenir, mais fin d'éditorial. Mais donc, oui, alors, bref, la question qui est posée derrière ça par le DGEQ, c'est la question des élections à date fixe, parce que là, les partis politiques peuvent encore plus qu'avant... planifier leurs dépenses, hein, puis leurs campagnes, justement, dire bon ben voici, on va mettre un paquet d'argent avant telle date, il va nous en rester ensuite parce que l'avenir est prévisible. Alors, ça pose la question aussi des avantages de l'élection à date fixe. Il y a pas que des avantages. On présentait ça comme la panacée autrefois. Puis là, on s'aperçoit que La valse des bonbons électoraux, ça arrive quand même. Le climat préélectoral avec les décisions qui ne se prennent plus ou qui se prennent moins ou qui sont plus dans l'air du temps et des sondages, on voit ça continuer aussi. En fait, la seule chose qui a changé par rapport à l'ancien régime, système, c'est que le premier ministre n'a plus l'avantage stratégique de choisir n'importe quelle date au gré de ses envies. Mais on sait que des fois, les politiciens qui faisaient ça se tiraient dans le pied aussi. Hein? Ils choisissaient une date par stratégie, puis ça leur sautait au visage. On pense à Stephen Harper avec sa campagne de 50, je sais combien de jours, là, il y a quelques années, qui a finalement permis à Justin Trudeau d'émerger au lieu de lui permettre d'avoir l'air fou, qui était le souhait des conservateurs. Alors, c'est pas si clair que ça, que c'est un immense progrès, les élections à date fixe. Néanmoins, oui, je pense qu'il va falloir s'interroger sur la publicité hors campagne électorale à l'approche des campagnes.
Moi, je pense aussi aux élections en 2008, quand M. Charest avait profité pendant que personne, c'était un gouvernement minoritaire, personne ne voulait d'élection, et ça faisait un an et demi seulement que ça avait eu lieu. L'opposition officielle était, les deux oppositions étaient prêtes, la DQ, le PQ a continué, mais M. Charest s'est dit, hey, ça, c'est le fun, ça. On vient d'avoir des élections fédérales, le monde, ça leur tentera pas d'aller voter au mois de décembre une deuxième fois, un mois après. Puis on sait ce que ça a donné. Écoute, moi, je t'entends. Je pense quand même, j'aime mieux la transparence et des institutions prévisibles que les petites manigances. Nick, on se parle pour la dernière fois aujourd'hui, du moins cet été, parce que moi, je pars en vacances demain. Alors, je vais te dire merci pour toutes ces interventions en ondes au cours de l'été que tu vas poursuivre au cours des prochaines semaines, parce qu'évidemment, l'émission ne se termine pas pour ça. Puis écoute,
je te souhaite c'est le remerciement et pour dire le moins réciproque et bravo vraiment pour vos travail, puis merci de m'avoir entendu.
Écoute, c'est ça a été un plaisir, puis on aura sans doute l'occasion à nouveau. À bientôt.
Quand tu veux. OK, salut.
Au revoir.